Bonsoir à toutes et à tous. En ce septième jour de la méditation, pour la neuvaine de prière pour les malades, nous entrons dans une réalité les plus profondes de la nature humaine, avec le mystère de la substitution, c'est-à-dire cet échange admirable qui est au principe même de la relation humaine et divine et de la communion des saints. Il ne s'agit plus ici de considérer la souffrance seulement dans son rapport à la vie psychique, biologique, neurologique ou sociale, mais d'entrer au cœur de l'événement unique par lequel la souffrance elle-même est assumée, traversée et transformée dans la personne du Fils de Dieu, fait homme, toujours vivant. Le Christ prend sur lui ce qui ne lui appartient pas, le péché, la douleur, la souffrance et la mort, pour nous donner ce qui est sien, la vie, la grâce, la liberté, la communion, la relation restaurée par sa résurrection. Jésus assume pleinement en sa personne la prophétie du prophète Isaïe dans le chant du serviteur souffrant. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ici, la souffrance devient un lieu d'union et d'échange où toute souffrance humaine peut entrer et y trouver son refuge. C'est ici que l'énigme de la souffrance trouve son sens le plus profond. Elle devient une participation réelle au mystère pascal du Christ Jésus dans sa résurrection, où notre souffrance unie à la sienne, devient féconde dans le corps mystique du Christ qu'est l'Église et le monde. Ce mystère de la substitution s'enracine et repose entièrement sur l'identité du Christ, car seul le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme, peut prendre sur lui ce qui est notre et nous communiquer ce qui est sien. Si Jésus n'était à la fois vrai Dieu et vrai homme, la rédemption perdrait toute intelligibilité et nos paroles resteraient vides de sens. Ce grand mouvement de substitution commence dès l'abaissement de l'incarnation, lorsque le Verbe se fait chair et vient habiter parmi nous. Le Concile de Chalcédoine en 451 affirme que le Christ est une seule personne reconnue en deux natures, humaine et divine, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Cette affirmation doctrinale permet de comprendre ce que la théologie appelle la communication des idiomes. Je précise, ce qui appartient à la nature humaine peut être attribué à la personne divine du Verbe incarné. Ainsi, nous pouvons affirmer sans contradiction que Dieu souffre, mais en précisant rigoureusement comment. Dieu ne souffre pas en sa nature divine, car celle-ci est immuable, acte pur, sans aucune potentialité de changement. Tout changement impliquerait une imperfection, puisque tout ce qui change, en quelque manière, est perfectible. Dieu, éternel, demeure hors du temps, possédant la totale et parfaite vie sans fin. Ainsi, la divinité est impassible, mais le Verbe éternel, qui a assumé la nature humaine, est capable de souffrir. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que Dieu souffre dans l'humanité qu'il s'est unie. Ainsi, l'immuable entre dans la souffrance sans cesser d'être Dieu. Non par nécessité, mais par surabondance d'amour, diffusion continue et abondante de bien. Saint Paul exprime ce grand paradoxe avec force. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Et encore, il s'est livré pour nous. Mais surtout, il s'éclaire à la lumière de son hymne christologique. Lui, qui était de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. En se dépouillant ainsi, le Fils éternel a réellement embrassé notre condition vulnérable, jusqu'à porter en son corps et en son âme les conséquences du péché. La souffrance du Christ est donc l'expression de cet abaissement libre. Le Verbe souffre selon l'humanité qu'il s'est unie, et c'est ainsi qu'il se livre pour nous et accomplit l'œuvre du salut. Le Christ ne subit pas la souffrance, il l'assume pleinement et librement. Le cœur du mystère se trouve dans la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Il est essentiel de préciser que cette substitution ne doit pas être comprise de manière purement juridique, comme si le Christ venait simplement payer à notre place. Elle est avant tout un échange d'amour. Le Christ entre dans notre condition pour la transformer de l'intérieur. Il ne prend pas seulement notre place, il nous introduit dans la sienne. Jésus prend réellement sur lui notre souffrance. Nous pourrions dire qu'il éponge notre souffrance. Le Christ entre dans la profondeur de la condition humaine marquée par le péché. Ainsi, dans sa souffrance rédemptrice, le Christ s'est approché de toutes les souffrances, dira Jean-Paul II dans Salvici Doloris. Le Christ ne reste pas extérieur à la souffrance humaine. Il rejoint l'homme de l'intérieur, même de son épreuve. Cela signifie que la souffrance du Christ est comme une porte ouverte par laquelle toute souffrance humaine peut entrer et trouver un refuge, un repos. Saint Jean-Paul II l'exprimera ainsi. Jésus a ouvert sa souffrance à l'homme, et c'est en lui que le mystère de la substitution est possible. Sur la croix, le Christ vit la forme la plus radicale de la souffrance relationnelle. Rejet, abandon, trahison, jusqu'à l'extrême de l'incompréhension. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce cri est une prière qui jaillit au cœur de la souffrance de Jésus, vrai homme. En reprenant le psaume 22, le Christ assume jusqu'au bout l'expérience humaine, de la déréliction, tout en demeurant dans l'acte d'abandon au Père. Il entre jusque dans l'expérience de la distance, du silence de Dieu, non pas comme une rupture ontologique dans la Trinité, mais comme l'expérience humaine de l'abandon. Il faut toutefois préciser ici que le Christ ne remplace pas l'homme au point de l'exclure. Il ne souffre pas à la place de l'homme pour l'en soustraire ou pour le dispenser de toute participation. Jean-Paul II dira au contraire, la souffrance humaine atteint son sommet dans la passion du Christ et en même temps, elle est entrée dans une dimension nouvelle. La souffrance devient alors participation au mystère du salut. Cette participation au mystère de la croix se réalise concrètement dans les sacrements et tout particulièrement dans l'Eucharistie. Là, le sacrifice du Christ devient présent et le fidèle est réellement associé à son offrande. C'est ici que la parole de saint Jean-Paul II trouve son intelligibilité. Le Christ souffrant a révélé le sens salvifique de la souffrance. Elle est une réalité ontologique et spirituelle. La substitution du Christ nous ouvre la possibilité d'une substitution participée avec lui. Cette participation peut se comprendre dans la vie même de petite Thérèse, où tout est centré sur Jésus. Chez elle, sa vie entière se condense dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. D'ailleurs, le nom de Jésus, omniprésent dans ses écrits, désigne la personne divine du Verbe incarné. Selon ses expressions bien personnelles, Dieu dans les langes, où Dieu s'est fait tout petit. Ce nom, Jésus, désigne avant tout la personne divine du Verbe qui a assumé la sainte humanité. Une humanité qui subsiste éternellement dans la divinité et qui est réellement identique à Dieu. C'est pourquoi petite Thérèse s'exclamait avec tant de force « Qui a Jésus a tout ?» Thérèse ne sépare jamais la divinité de l'humanité du Christ. Elle vit en lui l'unité des deux natures sans confusion ni séparation, conformément au concile de Chalcédoine. Son christocentrisme est théocentrique et trinitaire. Pardonnez-moi ces mots un peu barbares. En Jésus, elle trouve le Père et l'Esprit. Je cite Thérèse. « Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'Esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père », écrit-elle dans le Vivre d'amour. Cette affirmation, « Jésus est mon unique amour », gravée durant l'épreuve de la foi, interprète, pourrait-on dire, christologiquement le verset « Dieu est amour » que nous retrouverons dans la lettre de saint Jean. Elle exprime la réciprocité de l'amour entre Jésus et l'âme, un véritable échange d'amour qui devient la loi même de la substitution. Saint Paul l'exprime de manière audacieuse. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Ce verset ne signifie pas que la croix serait insuffisante, mais que la souffrance du Christ appelle une communion, une participation. Ce mystère de l'échange trouve tout son déploiement concret dans la communion des saints. Il s'agit d'une possible immanence mutuelle et échange réciproque de volonté. L'unité est fruit de l'amour. L'âme devient épouse du Christ, un mystère christologique, ecclésial, dont les racines nous plongent dans la vie même de la Trinité, une et sainte. Les mérites du Christ deviennent désormais propriété de toute âme. Nos actions bonnes sont méritoires parce que le Christ nous a précédés. À la base de cette communication de mérite se trouve l'habitation du Christ. Tu es devenu comme un autre moi-même, pourrait nous dire Jésus, de sorte que par la pauvreté spirituelle, chacun deviendra un autre lui-même. La valeur de nos actions provient du Christ qui agit en nous. Petite Thérèse a porté par sa petite voix l'aveu d'une pauvreté totale. Puisqu'elle n'a aucun mérite propre, elle demande à Dieu de lui donner les siens. Et dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle dira « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Je veux me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. » Par cet acte d'offrande, Thérèse disparaît en Christ et elle devient radicalement un autre lui-même, que ses désirs se confondent avec les siens. De cette substitution christologique naît la possibilité d'aimer à travers un véritable échange dans la souffrance. Jésus nous demande de lui céder ou de lui abandonner notre dégoût de la souffrance pour qu'au plus fort de notre épreuve, il puisse par nous communiquer sa joie aux âmes éprouvées qui se trouvent dans l'aridité et la souffrance. La souffrance participée d'autrui est insérée dans le bien de l'époux. Jésus transforme nos cris de révolte en perles précieuses. Il couvre les blasphèmes de nos cœurs par les paroles d'amour qui guérissent et consolent. Les âmes qui aiment participent ainsi à ce qu'a vécu l'agneau de Dieu, fait péché pour nous. Nous devenons d'une certaine manière des victimes d'amour, des victimes d'holocauste offertes à l'amour miséricordieux. Comme petite Thérèse, où agit mystérieusement l'Esprit-Saint. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici d'une recherche de la souffrance pour elle-même, mais d'un abandon d'amour qui accepte d'être uni au Christ jusque dans la souffrance. L'amour se fait alors fécond. Il crée en nous des atmosphères saines, ramène les prêtres qui ont trahi, convertit les pécheurs, même les plus endurcis. Les souffrances, la souffrance unie au Christ devient féconde par l'amour qui l'habite. Nous pouvons, à notre mesure et aidés par la grâce, porter en notre chair de souffrances autres que les nôtres. Thérèse, docteur de l'amour de Jésus, nous montre que cet amour, cet échange de fardeaux, est une science divine puisée dans l'oraison où la charité qui surpasse toute connaissance soulève le monde. Ainsi, la souffrance participée, assumée dans la résurrection du Christ, devient comme un échange de souffrance dans la communion des saints, lieu de l'amour trinitaire qui se distribue en surabondance. La participation à la souffrance ouvre ainsi à une participation à la gloire. Cet admirable échange de la substitution christologique ouvre à chaque baptisé le chemin de la sainteté. Et le cœur de cet amour d'échange ou substitutif, c'est l'amour de Jésus. En abandonnant notre souffrance participée, comme Thérèse, notre mission sur la terre comme au ciel est résumée par ces simples mots. Aimer Jésus et le faire aimer. En disant « Mon Dieu, je vous aime » devant le crucifix, nous entrons dans cette dimension nouvelle de la rédemption qui devient, par la grâce de l'échange substitutif, la fécondité de l'amour et donc de l'espérance. Amen.